IDFM Radio, le média valdoisien.
IDFM vous propose une rediffusion. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Merci d'être au rendez-vous en direct sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val-d'Oise, en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Belle matinée à vous toutes et tous qui êtes avec nous aujourd'hui vendredi 23 mai jusqu'à 11h dans ce nouveau numéro de l'économie en direct. Un rendez-vous qui s'annonce riche en actions pour un avenir meilleur et où générosité et engagement ne sont que 20 mots pour mes invités du jour et que j'ai le plaisir d'accueillir ce matin. Bonjour Patrick Bonnefond.
Bonjour Jacqueline, merci de nous recevoir ce matin.
Vice-président de, je vous en prie, merci Patrick, vice-président de Lyons Quest France, passeport pour la vie PPLV, en charge de la prospective et du développement, past gouverneur Lyons Club, district 103, Île-de-France, Ouest, pour les années 2022-2023.
C'est bien
J'ai
ça.
J'ai tout dit.
Vous avez tout dit, merci.
À vos côtés, Catherine Floquet. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour Jacqueline.
Donc vice-présidente de Lyons Club Quest France, également passeport pour la vie PPLV, directrice organisme de formation PPLV France.
C'est tout à fait ça.
Avec nous également Jean-Paul Bruno. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Président et dirigeant bénévole depuis 1987 des activités de l'association nationale EDVO, acronyme de Écouter, Développer, Vivre, Libre, Sans Drogue, Orienté.
C'est ça.
Et à nos côtés, alors trois représentants de UBACA, Yolis Guerra. Bonjour Yolis.
Bonjour, gracias y un gusto estar con ustedes.
Alors, merci Yolis. Alors, vous l'aurez compris, Yolis est la présidente internationale de UBACA et présidente du Mexique. Donc, bienvenue chez IDFM Radio.
Merci.
Avec nous Arnaud Lacroix pour la Eric Carpentier pour la traduction de Yolis. Bonjour Eric.
Bonjour et merci.
Et Arnaud Lacroix, président de UBACA Île-de-France et vice-président de UBACA France. Bonjour Arnaud.
Bonjour et merci de nous recevoir.
Donc 6 personnes dans le studio, je crois que c'est la première fois que ça arrive, hein, qu'on ait 6 invités, Francky. Il me semble pas que ce soit arrivé. On a 5, mais jamais 6. Alors chacune et chacun à sa façon, leader engagé dans une cause noble et généreuse que nous allons découvrir dans quelques instants. Bienvenue et merci à chacune et chacun d'être les invités en direct de l'économie en direct sur IDFM Radio. Une émission à retrouver comme bon vous semble grâce à son podcast sur IDFM 98.fr.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Alors Patrick Bonnefond, merci infiniment d'avoir pu réunir sur ce plateau ces personnalités dont vous faites partie, bien sûr. Personnalités influentes dans le domaine associatif et éducatif et qui méritent d'être plus que jamais mises en lumière. Pour vous, Patrick, tout commence avec le Lyons Club, hein, un club service international, dont peut-être vous pouvez nous rappeler rapidement les fondements.
Oui, les fondements du Lyons Club international qui a été créé en 1917. Eh bien, aujourd'hui, la première ONG au monde. Elle est structurée autour de deux organismes principaux. Tout d'abord, le Lyons Club International, qui regroupe l'ensemble des Lyons Clubs du monde entier, puisqu'on est présent dans plus de 210 pays, et la Fondation Internationale. Aujourd'hui, au niveau mondial, nous sommes 1 400 000 membres. Nous sommes plus de 22 000 membres en France. Nous défendons en priorité 8 causes. Ces 8 causes, c'est le diabète, c'est la vue qui a été notre première action, c'est le cancer infantile, c'est l'environnement, mais c'est aussi la jeunesse. Jeunesse pour laquelle nous œuvrons, nous, au niveau de Lyons Quest France. C'est l'aide aux victimes de catastrophes naturelles et c'est l'aide humanitaire au quotidien.
Ouais, donc un champ très vaste.
Oui, un champ très vaste, comme vous dites, Jacqueline.
Et alors, en 2010, créé justement à l'initiative du Lions Club International de France, a été créé Passeport pour la vie, donc son acronyme PPLV, qui fait partie maintenant de vos actions phares, je pense.
Oui, alors Lions Quest France relève en réalité directement de la Fondation internationale.
D'accord.
C'est l'action majeure au profit de la jeunesse au sein du Lions International. Et donc, faut savoir que le programme Lions Quest, qui existe depuis 40 ans, est aujourd'hui traduit en 30 langues. Il est diffusé dans plus de 110 pays et c'est plus de 20 millions d'enfants qui en ont bénéficié. L'objectif, c'est de faire de nos enfants de futurs adultes responsables qui ont la force de faire face à l'adversité. En France, le programme est d'origine américaine, puisque au départ, c'est un jeune étudiant américain qui, en 75, perd sa mère suite à des problèmes de violence et d'addiction, qui s'est posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider les jeunes comme moi qui sont confrontés à une telle situation? Eh bien, ce programme en France, on l'a enrichi avec de l'empathie, on l'a enrichi avec les thèmes du vivre ensemble et ce qu'on appelle la communication bienveillante.
Alors, moi, je vous avais reçu en mars 2024. Non, je vous avais reçu en mars, hein, je crois. Et quelques jours plus tard, le 26 mars, vous étiez reçu à Matignon par Antoine Le Sueur, conseiller aux affaires spéciales du Premier ministre à l'époque, Gabriel Attal. Vous aviez pu me dire, après ce rendez-vous, que vous aviez eu un accueil très chaleureux.
Oui, c'est exact. On a eu, en effet, un accueil très chaleureux au niveau de Matignon. Et c'est ce conseiller du Premier ministre qui nous a mis directement en relation avec le ministère de l'Éducation nationale. Cette réunion s'est très bien passée, était très positive, puisque l'objectif, c'était de nous intégrer dans le cursus de formation initiale et continue des enseignants. Et puis, la vie politique faisant les choses, comme vous le savez, il y a eu quelques mouvements au niveau des groupes de nos gouvernements.
Perturbations.
Et de fait, pour l'instant, c'est en statu quo. Attend, c'est en instance. Mais nous restons optimistes et nous pensons que nous allons arriver, en effet, à apporter notre valeur ajoutée. Dieu sait qu'aujourd'hui, les problèmes, les fléaux qui concernent malheureusement notre société, notamment au niveau de la jeunesse, sont conséquents.
Oui, bien sûr.
Et nous sommes bien sûr à disposition de nos gouvernements, de notre gouvernement, pour justement les aider à œuvrer contre ces fléaux qui sont le harcèlement, qui sont la violence, qui sont les problèmes d'addiction, etc., auxquels, comme le décrochage scolaire. Mais là, je laisse nos autres amis des deux autres associations vous en parler plus en détail.
On va en parler. Je voulais dire que grâce à vous, aujourd'hui, DFM Radio peut accueillir Jean-Paul Bruno, donc président de DVO, Yolis Guerra, présidente internationale de IBACA, Arnaud Lacroix, vice-président d'IBACA France, et puis Eric Carpentier qui est là pour membre de IBACA et qui est là pour assurer la traduction de Yolis. Donc merci infiniment. Peut-être je donne la parole à vous, Catherine, parce que vous aussi, donc en tant que vice-présidente de Lions Quest, quel est le témoignage que vous pouvez nous apporter?
Ok, moi ma mission est plus de l'ordre de la pédagogie, c'est-à-dire gérer cet organisme de formation qui nous permet d'intervenir auprès des jeunes dans les structures privées ou publiques auprès des enseignants, car notre cible ce sont les enfants, pas les jeunes, hein, parce qu'on va jusqu'à 21 ans, mais nous formons l'adulte qui lui va intégrer toutes ces compétences pour pouvoir les faire vivre. Parce que l'intelligence émotionnelle, ça s'apprend pas, ça se vit au quotidien. Donc on apprend justement à se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé en moi et pourquoi moi, en tant qu'adulte, j'ai cette réaction-là, et du coup de l'analyser et de le faire passer avec les gens qui sont autour de vous. parce que le but, c'est de comprendre qu'on a tous des besoins et des valeurs et qu'il faut les respecter déjà pour soi, mais qu'il faut aussi comprendre ce que l'autre est,
ressent,
et, donc c'est, oui. et ressent, et c'est tout le béaba de cette pédagogie, apprendre à connaître l'autre pour se connaître soi-même.
Oui, vous mettez l'accent hein, sur le développement des valeurs morales et c'est important ça.
Tout
aussi.
À fait. On est de plus en plus maintenant porté aussi sur une posture parce qu'on s'est aperçu que on a une société qui va très très vite, qui nous emmène dans des réseaux qui nous montrent des choses qui ne sont pas forcément ce vers quoi il faudrait aller. Et donc la posture est importante puisque c'est celle qui va donner l'exemple. Hein. Donc on est de plus en plus aussi en train d'ouvrir notre champ sur les adultes qui travaillent, pas forcément avec des enfants, mais qui travaillent par exemple dans les ESAT, dans les IME, qui sont en contact avec d'autres personnes. Et puis surtout... j'ai envie de dire tout le monde, parce que l'intelligence collective, ça s'apprend à tout âge.
Les adultes, c'est assez récent, puisque je crois qu'au départ, vous vous occupiez surtout des jeunes, oui. J'avais noté 6, 9 ans, oui, 10, 13 ans, et puis 14, 17 ans.
Oui, on a un petit peu augmenté, on est arrivé jusqu'à 21 ans, parce que l'adolescence existe. Donc, mais on s'est aussi tourné vers les adultes parce que, par exemple, les BAFA sont des jeunes qui ont envie de faire plein de choses, mais qui n'ont pas forcément l'attitude et la prestance, la posture pour accompagner ces jeunes-là. Donc, on est aussi vers ce domaine-là. On est en train de dégager aussi sur les tiches, sur justement ces jeunes adultes qui sont un petit peu, dans des situations difficiles de leur vie et oui, on a envie vraiment d'ouvrir à la communauté.
Un maximum.
Un maximum.
Je vous propose qu'on marque une pause et puis après je vais vous demander comment vous vous êtes rencontrés les uns les autres pour pas donner la parole qu'à une personne. À tout de suite.
Allô Lola, c'est encore moi. J'ai beaucoup pensé à toi, Lola.
Allô Lola, ne raccroche pas. Ne mets pas de hola.
Ce que l'on a, Lola, comme un garçon.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
C'est l'économie en direct et ce matin dans notre studio, beaucoup d'invités. Patrick Bonnefond, vice-président de Lyons Quest, à l'origine du programme Passeport pour la vie PPLV. Catherine Floquet, également en charge de ce passeport pour la vie en tant que vice-présidente de Lyons Quest Club Quest France, Jean-Paul Bruno, président de EDVO, Yolis Guerra, présidente internationale de Ubaca et présidente du Mexique, Arnaud Lacroix, président Ubaca Île-de-France et vice-président Ubaca France, et Eric Carpentier qui est là pour assurer la traduction de Yolis qui nous vient du Mexique et donc qui ne parle pas français. Et moi, je parle pas espagnol, donc voilà. Donc, encore bienvenue. Patrick, expliquez-nous comment vous avez pu réunir tout ce beau panel dans notre studio.
Ah, c'est toute une histoire. Tout d'abord, avec EDVO, nous accompagnons cette association et nous avons le plaisir de travailler avec Jean-Paul depuis 38 ans. Tout simplement dans le cadre de la montée en puissance de l'association EDVO, Jean-Paul a eu des besoins et les Lyons Club ont été là. Les Lyons Club du Val d'Oise ont été présents, ont répondu notamment financièrement ou à l'occasion de soutien logistique lors des banques alimentaires pour lui permettre de mettre en œuvre son projet et d'accompagner tous ces jeunes addicts dans le cadre justement d'une volonté de revenir dans une vie, je dirais, dite normale. Ubaca, c'est une autre histoire. Ubaca, c'est tout récent. Un beau matin, je reçois un coup de téléphone d'Éric Carpentier qui me dit « Voilà, Patrick, on va recevoir notre présidente internationale. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer ?» Je lui dis « Pourquoi pas ?»
Mais vous ne connaissiez pas avec Éric ?
Si, avec Éric, on se connaissait au travers du Lyons Club de Herblay, Sanois, La Frette, Rive de Seine. Et donc, nous avions eu déjà l'occasion d'échanger. Eric, faisant donc partie, est un biker, un vrai biker, et faisant partie de l'association Ubaca. Et donc, nous sommes rencontrés le jour du marché de Sanois, un dimanche matin, où j'ai eu le plaisir de faire la connaissance d'Arnaud Lacroix, le vice-président France d'Ubaca et président de Île-de-France d'Ubaca. Et puis, tout en discutant, on s'est rendu compte que nous avions les mêmes valeurs, que nous avions les mêmes objectifs d'accompagner cette jeunesse sur le plan qui est aujourd'hui, comme je disais, confronté à un certain nombre de fléaux comme le harcèlement, comme les décrochages scolaires. Et donc, nous avons rapidement dit... En fin de compte, on est complémentaires. Parce que si nous, le Lyons, on travaille dans le cadre, en amont, dans le cadre de la prévention, EDVO, comme Ubaca, ce sont des gens de terrain, gens opérationnels. Mm-hmm. Et donc, j'ai trouvé que l'idée de travailler ensemble était magnifique et ne pouvait que compléter les actions de service que nous faisions déjà ce jour.
Voilà, ça ne pouvait que vous séduire compte tenu de votre altruisme, Patrick, je pense qu'il faut le dire. Bruno, vous connaissiez Ubaca ?
Oui, on s'est rencontrés dans un cadre préparatoire d'action de prévention à Deuil-la-Barre, puisqu'on intervient sur plusieurs communes du Val d'Oise pour apporter nos services, surtout en prévention et en formation d'acteurs relais, enfin d'acteurs de proximité, pour aider en fait une population à risque par la prévention et quelquefois par l'action d'écoute et d'orientation des familles en difficulté, puisque nous faisons de l'accueil de victimes d'addiction ou en tout cas de personnes vivant à des addictions multiples et variées. Aujourd'hui, il y a plutôt une polyconsommation, aussi bien comportementale que de produits addictifs. et il faut gérer cet ensemble avec une prise en charge globale. Et c'est ce que l'on fait en dehors de la prévention.
Très bien. Voilà. Merci Jean-Paul. Alors je pose la question à mes trois invités de Ubaka, Yolis, Eric, Arnaud. Vous connaissiez donc DVO.
Arnaud, oui, effectivement, peut-être. On s'était rencontrés lors de cette intervention à Deuil-la-Barre. Les noms des associations circulent, on entend parler les uns des autres. Nous, on a la section en Bretagne qui aussi est très proche de tout ce qui est en lien avec les addictions par la gendarmerie sur place. Donc, effectivement, c'est des sujets malheureusement auxquels on est confrontés lorsqu'on s'occupe de la jeunesse.
On aimerait pouvoir ne pas en parler, mais c'est pas le cas.
Nous aimerions ne pas exister, effectivement. Ce serait parfait. Que ce monde n'ait pas besoin de nous. Mmh. Et bon, mais en attendant, on le fait avec grand plaisir.
Grand plaisir. Yolis Guerra, donc vous êtes présidente internationale aujourd'hui et présidente du Mexique depuis combien d'années au Mexique?
Bueno, yo sé que es diferente nuestras culturas. En México tenemos similar los ejes que manejan los Lions Clubs Internacional. México trabaja de la mano con el club local de mi país en las acciones que generan valores con los niños, más específico.
Oui.
Alors, elle a dit beaucoup de choses, mais essentiellement, effectivement, que d'un pays à l'autre, les sujets peuvent être communs tout en ayant certaines particularités et certaines différences, mais qu'effectivement, travailler sur les jeunes, c'est vraiment ce qui la motive le plus, préparer les jeunes à un monde meilleur, comme elle le dit souvent.
Merci, Eric Carpentier.
Esta visita para mí es muy especial porque ahora vengo como representante internacional de una asociación que genera muchos valores y que genera mucha nueva visión, no solamente para mi país o para Francia, sino para el mundo.
Cette visite pour elle est très spéciale parce qu'elle, au départ, elle devait venir pour représenter son pays, étant nommée depuis maintenant un petit peu plus de 2 mois présidente internationale. Elle a une grande responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des pays avec lesquels des valeurs communes sont partagées pour travailler sur cette jeunesse et sur les problèmes divers qu'elle exposera un petit peu plus tard.
Très bien. Merci beaucoup. Merci. Je crois que le décor est planté. Je propose qu'on écoute un peu de musique avant de continuer sur cette formidable découverte de vos associations. À tout de suite.
Je vis pour elle jour après jour. Quand ses accords en moi se fondent, c'est ma plus belle histoire d'amour. Elle est restée en moi pour toujours.
Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Je vis pour elle depuis toujours. Qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre, elle me dessine après l'amour. Un arc-en-ciel dans notre chambre. Elle est musique et certains jours, quand notre cœur se fait trop lourd, elle est la seule à pouvoir nous porter secours.
Che ci invita,
elle vivra toujours en moi,
attraverso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei.
Je vis pour elle.
Per lei lo so mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo.
Je serai perdu sans
elle. Vivo per lei dentro gli hotel.
Je suis triste et je la perds.
Vivo per lei nel vortice attraverso la mia.
je ne vis que par elle. Je ne vis que pour elle.
Sopra un palco contro un
per lei, perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
È la musica, la diselle, è la Madonna, la clé du ciel, qui m'ouvre enfin le porte du soleil. J'existe par
elle. La musica.
J'existe pour
vivre pour
elle
unique.
Elle est toi et moi. La vivre pour elle.
Io vivo.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'était Je vis pour elle en duo avec Andrea Bocelli et Kenji Girac. On se retrouve sur IDFM Radio pour ce numéro spécial consacré à des associations qui œuvrent pour le bien commun, avec à mes côtés Patrick Bonnefond, vice-président de Lyon's Quest France à l'origine de Passeport pour la vie, Catherine Floquet, vice-présidente de Lyon's Club. Lyon's Club Quest, il faut que je le dise doucement, France. Jean-Paul Bruno, président et dirigeant bénévole depuis 1987 de EDVO. Et Yolis Guerra, Éric Carpentier et Arnaud Lacroix. Yolis, présidente internationale de UBACA et présidente du Mexique. Arnaud, président de UBACA Île-de-France et vice-président de UBACA France. Éric Carpentier qui est avec nous pour un membre de UBACA pour assurer la traduction. Catherine, on revient peut-être sur le programme de Lyon's Quest, enfin de PPLV. Vous-même, vous avez des compétences pour assurer ces programmes.
Oui, bien sûr, on a été formé pour cela, et donc on a suivi de la formation avec une reconnaissance qui vient bien sûr de notre des États-Unis. Donc on est formateurs nationaux quand on agit sur la France. Moi, je suis formatrice internationale, donc j'ai toute l'Afrique, tous les pays francophones sous ma responsabilité, et j'ai comme mission d'accompagner, de former, de certifier ces nouvelles personnes qui vont aller sur le terrain et s'aimer un maximum notre programme. Je reviens d'ailleurs du Burkina Faso, puisque je viens d'être reconnue comme consultante à l'ONU contre la drogue et le crime. Et je viens donc de faire 15 jours de formation auprès de, avec justement le général police qui intervient là-bas pour former beaucoup les parents, parce que bon, ils sont pas forcément conscients, parce que l'amour inconditionnel existe, et on a toujours l'impression que le nôtre ne fera pas ce que les autres font. Donc, du coup, on travaille beaucoup sur, justement, sur leur apporter, disons, des petits éclairages pour qu'ils puissent, tout en gardant cet amour inconditionnel, être dans l'aide leurs enfants. Voilà. Et donc, on travaille beaucoup sur l'estime de soi, sur le tabouret, estime de soi, confiance en soi, et écoute. Écoute de soi et écoute de l'autre. Voilà, et s'il y a une petite patte qui manque à un tabouret, ben on tombe.
C'est une belle image. Quand vous dites que vous êtes de plus en plus vers les adultes, est-ce que justement vous apportez une formation aux parents? parce que quelquefois c'est utile.
Oui, bien sûr, les parents sont très demandeurs hein, dans les écoles, à travers les associations de parents d'élèves, et on a donc monté une formation qu'on a appelée Démystifier le mythe du parent parfait, justement, où on intervient sur une journée pour pouvoir, avec eux, parce que nous on est beaucoup dans l'intelligence collective, dans le partage, on n'est pas là pour donner notre vérité, mais plutôt pour écouter eux, quels sont leurs ressentis, et voilà, donc on travaille déjà dans ce sens-là, et puis on essaie, comme je le disais tout à l'heure, de former tous les adultes qui sont dans une communauté pas forcément éducative, parce qu'on est des exemples pour nos enfants.
Qui ressentent le besoin.
Et
de...
voilà, et si on montre le bon exemple, nos enfants, peut-être, complètement, je l'espère, bien qu'on sache que des fois l'adolescence, on a envie de pas faire forcément ce que le parent fait, mais en attendant, tout à chacun, on doit montrer un exemple.
J'ai le sentiment que vous voulez intervenir, Jean-Paul Bruno, sur ce témoignage de Catherine.
Oui, enfin, il faudrait mobiliser un peu plus les parents.
Oui,
et c'est très compliqué, puisque depuis plus de 40 ans maintenant, puisque j'ai commencé à la brigade des stupes quand j'étais formateur et policier formateur anti-drogue, à faire de la prévention au titre de la police, mais j'ai créé en parallèle EDVO en 87 pour le faire bénévolement à titre associatif, là où on ne voulait pas voir forcément un policier. Donc, pour répondre à des carences aussi, parce que depuis très longtemps, je dirais qu'on est en retard sur la prévention, et au niveau des jeunes d'un côté, mais surtout au niveau des parents qui doivent être les meilleurs éducateurs. Mais encore faut-il leur donner les moyens. Et les parents sont bien souvent démunis.
C'est difficile d'être parent.
Voilà.
Je crois que c'est le métier le plus difficile au monde.
On n'apprend pas à être parent et on n'apprend surtout pas à corriger le tir quand on a fait des erreurs sur le plan éducatif. Et c'est là où il faut faire appel à des aidants et pas regarder au-dessus de l'épaule de l'autre pour savoir qui va faire le travail à la place. Et je pense que la proximité, l'éducateur de proximité, ça doit être le parent ou l'environnement familial, en tout cas, quand et encore faut-il leur apporter des éléments d'information ou une méthode ou une stratégie, en tout cas, pour essayer de ramener un ado, surtout quand il est déviant. Et aujourd'hui, il faudrait s'occuper des CM1, CM2 dans le milieu scolaire, mais à la maison surtout, puisque les déviances commencent déjà par le portable, puisqu'on met devant l'écran pour avoir la paix peut-être, mais pour l'occuper. Mais c'est pas forcément la bonne technique pour développer ces cinq sens et travailler sur les compétences psychosociales qu'il faut développer de plus en plus tôt. Et là, les parents ont un rôle à jouer dans le développement des compétences psychosociales. Donc, ce que fait le lyonisme aujourd'hui est particulièrement intéressant. Mais encore faut-il mobiliser les parents et l'environnement, en tout cas, du jeune dans le milieu scolaire. C'est compliqué de mobiliser, surtout au niveau scolaire, auprès des préadolescents et des adolescents.
Merci Jean-Paul Bruno pour ce témoignage. Catherine et Patrick, pour ce programme PPLV, quels sont vos besoins aujourd'hui ? Patrick,
nos besoins, je dirais que justement on travaille actuellement sur un projet pour les 3 ans à venir, c'est de développer notre visibilité. Quand je dis développer notre visibilité, c'est sur 2 axes. Premièrement, renforcer nos présences sur le terrain au niveau territorial. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en train de créer 2 nouvelles associations régionales, une sur le centre-ouest et une sur le centre-sud. Donc ça, c'est déjà bonne nouvelle. Et deuxièmement, c'est de développer, de renforcer la communication sur Passeport pour la vie, parce que c'est un programme qui a des résultats exceptionnels, mais qui est très peu connu en France, alors que dans d'autres pays, il est totalement intégré, comme en Allemagne, comme dans certains pays scandinaves, intégré dans le programme scolaire. Et je pense que ça serait une bonne chose, en effet, de pouvoir développer, mettre au profit de l'éducation nationale ce programme de développement qui est vraiment basé sur des outils pédagogiques reconnus, fiables et de qualité.
Merci beaucoup, Patrick. C'est votre sentiment, bien sûr, hein, Catherine.
Bien sûr, non. De toute façon, on est tous ensemble, réunis pour une même cause. Ouais. Je sais que nos amis travaillent sur une compétence psychosociale qui est l'acceptation de l'autre et donc plus spécifiquement sur le harcèlement. Donc, je pense qu'ils vont en parler. Jean-Paul, c'est plus concernant ces choses qui arrivent de l'extérieur où il faut bien sûr avoir cette compétence d'adversité pour pouvoir y renoncer. Donc on est tous là pour le même but et je trouve ça très intéressant qu'on s'associe.
Ah oui.
Parce que seul on n'est rien.
Je comprends, ouais.
Et donc le fait d'être ensemble, chacun va apporter sa compétence, on pourra peut-être faire des choses ensemble qui vont nous faire progresser chacun. Donc moi je suis vraiment ravie.
Oui, il y a une phrase qui est souvent citée dans mon émission ou par mes invités ou par moi, c'est que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
Bien sûr.
Donc, voilà.
Et ensemble on est plus fort.
Oui, ouais. Absolument. Merci Patrick Bonnefond, merci Catherine Floquet pour vos actions et puis on va continuer à parler de PPLV longtemps, j'espère. Restez avec nous dans quelques minutes. Nous retrouvons cette interview avec ces multiples associations. À tout de suite.
J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré cent fois son visage, trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence, un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Je l'ai connu trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau, c'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste une dernière danse. J'ai reçu de ses mains le bonheur ancré dans mon âme. C'est même trop pour un seul homme. Et je l'ai vu partir sans rien dire. Il fallait seulement qu'elle respire. Merci d'avoir enchanté ma vie avant l'autre.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
C'est toujours l'économie en direct et je suis toujours en compagnie de Patrick Bonnefond, Catherine Floquet, Jean-Paul Bruno, Yolis Guerra, Arnaud Lacroix et Eric Carpentier. Alors peut-être vous donner la parole à Arnaud Lacroix à propos du UBACA France. UBACA, ce sont donc des bikers et moi, en préparant le dossier, j'ai trouvé, je ne suis pas du tout biker, j'ai trouvé assez étonnant ce côté un peu viril, même si je comprends que Yoli c'est sûrement un biker, ce côté un peu viril et puis toute cette tendresse d'un engagement avec les enfants. Vis-à-vis des enfants?
Oui, tout à fait, effectivement. UBACA, c'est une association internationale aujourd'hui, mais on est assez fiers de dire qu'elle a été créée en 2011 en France. Donc c'est vraiment au départ une association française, c'est quelque chose d'intéressant, dont l'objet a été de lutter contre la maltraitance. Ça, c'est vraiment la fondation. Et ça s'est fait avec, effectivement, un groupe d'amis motards, des bikers, qui ont eu envie de prendre les choses en main. Cette association s'est développée et aujourd'hui on est structuré, alors en France on est structuré en région, donc moi je suis le président Île-de-France et il y a le centre, il y a la Bretagne, voilà, toutes les régions nous sommes présents et également dans différents pays, le Mexique, l'Allemagne, le Luxembourg, la Suède, le Canada, enfin voilà, dans de très nombreux pays. La particularité en France, c'est effectivement que nous intervenons beaucoup sur le sujet du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement. Le côté lien avec la moto, c'est que nous passons des conventions avec les établissements scolaires ou périscolaires et nous intervenons en moto dans les établissements. Donc là, il y a les motos dans la cour d'école.
Les yeux doivent briller.
Exactement, c'est le moyen de faire briller, de rendre le sourire aux enfants, de faire briller un peu leurs yeux. Et ce qui va nous permettre de nous positionner en fait en grand frère à qui on peut tout dire. Voilà, l'idée, elle est là, elle est de débloquer. Donc, par rapport à ce qui a été dit avant, c'est vrai qu'on est complémentaires complètement parce que donc on va être sur le terrain auprès des enfants, on va leur parler de non-discrimination, on va leur parler de différence en disant que c'est de la complémentarité, exactement l'exemple d'aujourd'hui. Et on va essayer de les amener par des méthodes positives à s'entraider les uns les autres pour sortir de situations. On a également des ateliers qui sont à destination des enseignants, où là, on leur présente un peu justement nos méthodes et des méthodes, des astuces qu'ils peuvent, eux, utiliser. L'enseignement, c'est la répétition. Donc, c'est intéressant aussi qu'on puisse avoir des échanges avec eux pour qu'ils puissent relayer notre message en proximité à plusieurs reprises. Et effectivement, là où on se rejoint, c'est qu'on a également des ateliers auprès des parents, dont un qui s'appelle « Je scroll, donc je suis ». Voilà, petit détournement.
C'est par rapport aux écrans, hein, c'est ça?
Voilà, exactement. Parce qu'il est très intéressant, enfin, on échange régulièrement dessus, c'est de voir aussi que dans la société actuelle, l'outil numérique est omniprésent, mais nous en avons besoin, puisque c'est notre société. Donc, il y a ce besoin de prise de conscience de l'outil qui va avec la génération, mais un outil, quel qu'il soit, il faut savoir le manipuler.
Il faut savoir le maîtriser, bien sûr.
Donc, intervention auprès des parents également. On a des petites astuces ou des petites choses qu'on leur témoigne du type pourquoi est-ce qu'un enfant ne parle pas aux parents? Parce que c'est une réalité, ça a été évoqué tout à l'heure. Je vous invite à rejoindre vos années d'adolescence et de vous poser la question, est-ce que vous-même vous parliez à vos parents? C'est toujours très difficile. Et effectivement, dès qu'on va commencer à parler d'émotionnel, c'est très, très difficile.
On rentre dans un champ compliqué. Arnaud, moi j'avais eu l'occasion de citer UBACA il y a un an, à peu près à la même période, parce que j'avais reçu le maire de Asnières-sur-Oise et son premier adjoint, Philippe Marco, qui nous avait cité, il soutenait votre action à Bayet. Donc voilà, j'avais évoqué UBACA, et donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui.
Merci. Oui, enfin, je tiens à remercier beaucoup d'établissements scolaires, de beaucoup de mairies, car en réalité, sans eux, nous ne pourrions pas intervenir, nous ne pourrions pas agir, nous ne pourrions pas être à proximité des enfants. On parlait tout à l'heure de l'âge. Nous, on intervient à partir du CM1 jusqu'à la majorité, non pas administrative, mais on va jusqu'à 24 ans parfois pour les aider à sortir de situations difficiles. Je pense que nos enfants, quel que soit l'âge, on a envie de les aider.
Bien sûr. Oui, nos enfants restent toujours des enfants, quel que soit l'âge qu'ils atteignent. Yolis Guerra, quelles seraient les différences de votre action au Mexique par rapport à l'international?
Bueno, muchas diferencias. Mi país, México, es un país un poco difícil en cuestiones de violencia, tráfico, muchas cosas que nosotros vivimos día a día.
Éric Carpentier le traduit.
Elle disait que pour elle, il y a quand même un certain nombre de différences par rapport à la situation du Mexique, un pays qui est extrêmement, qui doit subir beaucoup de violence, beaucoup de problèmes dans la société même.
Sí, en lo particular tengo, mañana cumplo 11 años como presidenta de la asociación UVACA México.
Demain, elle fêtera ses 11 ans de présidence en tant que présidente du Mexique.
Sí, son 11 años que hemos estado trabajando en diferentes ejes según las necesidades que nos dan la situación.
Depuis 11 ans, elle a travaillé dans différents environnements avec plusieurs axes d'intervention qu'elle a pu développer.
Si bien nuestro sistema siempre ha sido enfocado a la prevención escolar, a la prevención cibernética, la necesidad en México ha estado expandida en otras situaciones.
Elle va bien au-delà de préoccupations scolaires ou de préoccupations de cyberharcèlement.
Nosotros tratamos los ejes sobre la violencia intrafamiliar.
Donc elle intervient particulièrement sur toutes les violences intrafamiliales.
Violencia de la mujer.
Les violences faites aux femmes.
Et abusos sexuales y psicológicos sobre los menores.
Voilà, les formes d'abus psychologiques et physiques sur les mineurs.
Damos apoyo a ayuda humanitaria.
L'aide humanitaire également.
La salud. Tenemos equipo de salud.
Elle a également avec elle un certain nombre de partenaires dans la santé.
Damos apoyo a los adultos mayores.
Elle aide également certains adultes selon les difficultés rencontrées.
Ayudamos a las mujeres privadas de la libertad con sus hijos.
Et elle aide également les femmes qui sont emprisonnées au regard des enfants qu'elles peuvent avoir en situation carcérale.
Quelle est la réaction du gouvernement mexicain par rapport à UVACA?
¿Cuál es la reacción del gobierno?
Nosotros
mexicano?
Tratamos de tener una buena buen manejo con ellos, con las autoridades, porque necesitamos el apoyo con ellos para darle seguimiento a los casos que se requieren el apoyo.
Alors, elle a de très bonnes relations avec toutes les formes d'autorité parce qu'elle a bien évidemment besoin d'eux pour ses interventions. La particularité du Baja Mexique, c'est qu'elle est essentiellement sur l'état du Nuevo León, qui est un état au nord, très proche de la frontière texane, un état très industrialisé, mais aussi un état dans lequel il y a beaucoup de problèmes. Et elle s'entend vraiment très très bien avec toutes les autorités parce qu'en 11 ans, elle a acquis une telle réputation et une telle crédibilité qu'aujourd'hui, les professionnels viennent spontanément vers elle. Elle fait aussi quelques actions parfois au Chiapas, par exemple, ou quelques actions un petit peu sporadiques. Mais c'est vrai qu'elle est centrée vraiment aujourd'hui sur l'état du Nuevo León. Et donc là, elle a vraiment d'excellentes relations. Elle a été récemment médaillée de la ville où elle réside, la plus haute distinction de sa commune, qui est quand même une commune de 400 000 habitants.
Ouais. Félicitations.
Gracias, bravo. Gracias.
Et donc, en fait, elle est présidente UVACA Mexique à vie, j'ai l'impression, non?
¿Estás presidente para siempre en México?
No sé. No, mi hijo es mi sucesor. Somos una familia de motociclistas, pero totalmente entregados a la causa, solo de México, sino de todos los niños.
En fait, elle ne sait pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, son fils aîné est très impliqué, c'est son vice-président et certainement le futur président de l'association. Elle dit que sa famille est complètement tournée vers la cause des enfants, que ce soit sa fille, son second fils, tout le monde participe.
Oui, c'est un projet de vie.
C'est un projet de vie complet, voilà, aujourd'hui complètement.
Merci infiniment, Eric Carpentier. Merci beaucoup, Yolis Guerra, pour tout ce que vous faites. Merci. Arnaud Lacroix, je crois que vous avez des... Alors, je vous pose la même question qu'à Catherine et Patrick. Quels sont vos besoins pour Ibaka?
Alors, nos besoins, effectivement, nous seraient vraiment d'ordre administratif, mais ça va rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure. Nous avons déjà eu la chance d'être reçus deux fois à l'Assemblée nationale. Nous y retournons pour une conférence, d'ailleurs le 4 juin. Mais aujourd'hui, on est confronté à une difficulté d'action au niveau des établissements, puisqu'il y a besoin d'un agrément national que nous n'avons pas, parce que cet agrément, il est marqué sur le site qu'il n'est plus nécessaire. Alors c'est une ambiguïté compliquée, parce que pour les directeurs d'établissement ou directrices d'établissement, on leur dit d'un côté, nous n'avons pas l'agrément, et sur le site, c'est marqué que ce n'est pas nécessaire, mais qu'il existe. Et donc avec une liste d'associations autorisées à agir. Alors voilà, c'est une ambiguïté forte.
Il s'agit de quel agrément précisément ?
C'est un agrément ministériel qui donne l'autorisation d'être référencé comme pouvant intervenir dans les établissements. Aujourd'hui, la majorité des établissements...
Peut-être qu'en allant à l'Assemblée nationale, ça va...
Troisième fois que nous y allons, on espère fortement arriver à...
Vous y allez sur l'invitation d'un député ?
Oui, tout à fait, oui. Alors, c'est... on est apolitique, on est religieux, je citerai pas, mais effectivement, on a des députés
j'en invite régulièrement.
Nous soutiennent, nous aident, et voilà, c'est important, ils font aussi beaucoup de travail auprès de nous. Voilà, donc si on pouvait trouver des leviers, d'ailleurs tous ensemble,
bien d'accord.
Voilà, trouver peut-être des choses, parce que c'est agir en commun. Nous, on est basé sur des bénévoles, on a des membres qui sont très actifs, partout en France, et parfois c'est dommage qu'on ne puisse pas intervenir en prévention. On a parlé tout à l'heure de prévention. Souvent Ibaka est sollicité trop tard. On est sollicité lorsqu'il y a déjà de la maltraitance, lorsqu'il y a des situations de harcèlement,
c'est un peu tard, avec des
plaintes. Enfin voilà. Alors que on est convaincu, je pense qu'on le partage comme opinion, que la prévention peut faire beaucoup. Et que si on arrive effectivement à rentrer dans un cadre de prévention, ça va aider. Il y a quelques établissements en France où on a passé des conventions et ils nous ont intégrés dans leur programme. Donc Patrick en parlait tout à l'heure, mais effectivement on est intégrés dans le programme et tous les ans on intervient. Deux établissements nous ont demandé aussi sur la journée de rentrée des enseignants de faire une intervention, ne serait-ce que leur rappeler qu'on est là aussi pour eux, pour les aider.
Et puis c'est une façon de passer le message aux enfants, n'hésitez pas à parler,
exactement,
ce que vous disiez
tout à fait. Le but, c'est une phrase que l'on partage, c'est il faut libérer la parole.
C'est essentiel de parler en
réalité. Déjà pour un adulte, je pense que on est tous conscients que parfois parler de certaines choses c'est difficile, mais pour un jeune en développement intellectuel, émotionnel, cette intelligence émotionnelle dont on parlait aussi, eh bien c'est très difficile car il ne sait pas ni à qui, ni comment, ni même est-ce que c'est juste,
comment
est-ce
ça
que ça l'est pas.
On a des
situations d'enfants qui en situation de harcèlement lourd vont avoir peur d'être rejetés par leur propre famille s'ils le disent. Donc c'est vrai que grand frère des bikers, ça aide, parce que là on peut les accompagner, on leur propose d'ailleurs même d'aller avec eux voir leurs propres parents en disant viens on y va ensemble, on te tient la main. Et voilà, donc on a un petit slogan entre nous qui est oser parler à un biker. Je pense que même au-delà du baka, toute personne à qui un enfant arrivera à parler, ça fera une différence.
C'est une victoire acquise, enfin en tout cas un début de victoire. Alors j'ai pas précisé que Ibaka signifie Urban Bulldogs against Kids Abuse, c'est ça. Hein?
Tout
donc
à fait.
J'aurais dû le dire au début, je l'ai pas dit. Merci infiniment, merci Yolis, merci Eric, merci Arnaud pour cette présentation du Ibaka. Comme le Lion, vous avez le studio vous est ouvert quand vous voulez venir présenter vos actions, avec grand plaisir. Merci à vous. Arnaud, vous avez donc cette conférence à l'Assemblée nationale le 4 juin, mais ce soir, vous avez un dîner aussi avec le Lions Club. Quel Lions Club?
Oui, alors c'est justement avec le Lions Club qui est sur Herblerelais, La Frette...
Sanois,
merci.
D'accord.
Donc là, c'est un dîner où il y aura deux choses. Déjà, on va fêter l'anniversaire des 11 ans de présidence de Yolis au Mexique. Donc c'est, voilà, c'est un événement
important.
Important et sympathique. C'est également un moyen d'organiser une collecte financière ouverte là à tout le monde. C'est une collecte en ligne dont l'objet va être effectivement de pouvoir communiquer et transmettre cet argent directement au Mexique. Alors je vais faire deux appels. C'est, n'hésitez pas si vous voulez pouvoir aider sur place. 100% des sommes sont reversées, oui, de toute façon pour le Mexique. Et également, nous avons collecté un certain nombre de vêtements et de ressources qu'il faut envoyer au Mexique. Et on a une grosse, oui, difficulté, mmh, car le prix d'expédition de toutes, oui, choses est colossal. Donc si un transporteur nous entend, si quelqu'un, mmh, a des moyens de nous accompagner là-dedans, on est bien sûr preneur.
Vous êtes preneur. Bah écoutez, on espère que le message va passer, puis on va essayer de relayer cette information au mieux.
Merci
infiniment à tous les trois d'être présents avec nous ce matin. Voilà, il est temps de marquer une nouvelle pause et puis on va développer un peu plus l'association EDVO. À tout de suite.
Il se lève, c'est l'heure, il écrase son égo. Dans sa tasse de café, éteint la stéréo. Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Éteint dans la cuisine, mais la sécurité. Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours.
Où es-tu quand tu es dans mes bras? Que fais-tu? Est-ce que tu penses à moi? D'où viens-tu?
Des mauvais rêves, je suis sur un mauvais câble. Dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique urgent et désirant une blonde décapitée dans sa décapotable. Un cauchemar, highway, road trip, fumée noire. Une vente vorace tue au fond d'un couloir. J'en sors pas, cafard, bad trip. Idée noire, avalée par l'espace au fond d'un entonnoir. Je veux m'enfuir.
Quand tu es dans mes bras,
je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir.
Tu ne penses qu'à toi?
Je veux m'enfuir.
Tout seul tu finiras.
Je veux m'enfuir.
Quand tu es dans mes bras,
je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir.
Tu ne penses qu'à toi.
Je veux m'enfuir.
Tout seul tu finiras.
Je veux m'enfuir, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je veux m'enfuir, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je m'enfuis, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire. Je m'enfuis.
Quand tu es dans mes bras,
je m'enfuis.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir.
IDFM 98 FM.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio, c'est l'économie en direct et ce matin j'accueille trois associations, le Lions Club International avec Patrick Bonnefond et Catherine Floquet, l'association nationale EDVO avec Jean-Paul Bruno et UBACA International et UBACA Mexique, UBACA France avec Yolis Guerra, Eric Carpentier et Arnaud Lacroix. Jean-Paul Bruno, alors j'ai eu le temps de vous le dire avant que l'émission commence. En fait, moi, j'ai le souvenir de vous avoir rencontré il y a quand vous avez dû créer l'association. Vous étiez venu aussi dans un club, un Rotary Club. Et le hasard veut qu'il y a à peu près un an, j'ai été contactée par une amie qui m'a envoyé le lien d'une émission qui s'appelle « Contradiction ». Fait par Rose, qui maintenant est diffusée d'ailleurs sur IDFM Radio. Et elle m'avait envoyé le lien de cette interview avec EDVO, un témoignage bouleversant avec votre la personne, là, j'ai oublié son prénom, mais voilà, quelque chose de bouleversant. Oui.
Alors, on évite de donner les prénoms, on garantit l'anonymat.
Voilà, oui.
La particularité d'EDVO, déjà, c'est une association nationale, puisque nous intervenons en prévention à l'échelle nationale, sur demande des établissements surtout on accueille des personnes venant de toute la France avec leurs problèmes d'addiction. On les oriente pour les sevrages sur des partenaires, on a créé des partenariats spécifiques pour le sevrage et pour une post-cure de consolidation de l'abstinence. On fonctionne avec un modèle anglo-saxon. On s'est inspiré du modèle Minnesota, donc on revient vers ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, le côté international. On s'est inspiré, enfin pour EDVO en tout cas, je me suis tourné sur un modèle de thérapie qui n'est pas suffisamment implanté en France, à savoir la recherche d'une consolidation de l'abstinence de tout produit modifiant le comportement, mais avec une méthode de rétablissement qui part des changements de comportement. Encore faut-il identifier ce qu'il y a derrière des comportements, soit des traumatismes, soit des difficultés à gérer des émotions, parce que ça commence très tôt. Et fuir des émotions avec des produits ou des comportements de fuite, quels qu'ils soient, écran ou autre comportement, ça se travaille. Et non seulement ça se travaille, mais réapprendre à vivre sans produits ou sans comportements addictifs, c'est toute une dynamique qui part de l'entraide. Donc cette méthode de rétablissement part d'un groupe. Donc pour EDVO, après sevrage et post-cure, on accueille des personnes qui désirent maintenir l'abstinence et pendant un an, par étape, ils vont travailler sur des changements,
pour ne pas rechuter, changer
les comportements, travailler sur les émotions qui sont à l'origine des pulsions de consommation et réapprendre à fonctionner autrement. Donc, pour vivre libre, sans dépendre ni d'un produit de substitution, ni de personnes forcément aidantes, puisqu'ils doivent devenir acteurs dans tous les schémas de leur vie. C'est-à-dire les compétences psychosociales qu'il faut apprendre. Pour beaucoup, ils sont passés à côté. Donc, plus d'assurance, plus de confiance en soi. Mmh. Et la particularité aussi pour notre méthode, c'est de faire intervenir nos pensionnaires comme des pères aidants. Donc on retrouve un peu le même mécanisme.
Le même concept, hein.
Ils m'accompagnent dans toutes les préventions. Donc on est quatre intervenants conférenciers et on a à chaque fois deux résidents qui participent par leur témoignage à informer les jeunes comment ça commence, pour qu'on s'arrête pas quand on veut, et la difficulté ensuite de retrouver sa place dans la société. Et c'est une très bonne école pour eux de prise de parole en public et surtout se sentir utile, devenir des acteurs. Et ils le font d'autant plus que aujourd'hui on développe cette paire aidance avec des formations. Et on a aujourd'hui beaucoup de nos pensionnaires qui deviennent des patients experts et qui vont aussi bien dans les prisons que dans les lieux de cure en addictologie pour aider, donner de l'attrait aux soins, aider ceux qui sont encore, je dirais, dans l'envie de retourner vers un produit de choix ou des comportements à risque après sevrage. Donc, consolider, mais surtout aider et développer une dynamique d'entraide nationale et internationale, puisque beaucoup, dès le départ, dès leur arrivée à EDVO, ils sont invités à participer à des groupes d'entraide extérieurs, 90 jours, 90 réunions d'entrée pour créer du lien dans des associations du type alcoolique anonyme, narcotique anonyme, enfin tous les mouvements d'entraide qui nourrissent un tissu social important pour aider ceux qui sont en difficulté avec des produits et qui ont besoin vraiment de cette dynamique pour éviter les écueils de la vie. Parce qu'on peut être abstinent pendant 10 ans et puis avoir une rupture affective ou un échec. Et l'envie, et mémoriser l'envie de consommer, vient combler...
Le cerveau est un terrible ennemi hein, dans ce cas-là.
Voilà, donc recréer une dynamique autour des addictions, c'est aussi rester abstinent, mais surtout se sentir utile dans la vie pour aider les autres. Et je vous promets que dans les écoles, que ce soit les 3e, 4e dans les collèges ou 1e, 2e dans les lycées qu'on voit majoritairement, la parole se libère en fin de conférence auprès de nos pensionnaires et on voit très bien quel est le rôle d'un aidant, d'un père aidant. Ceux qui sont passés par là ont beaucoup d'attrait.
Complètement.
D'autant plus aussi pour ceux qui sont en soins, qui ont quelquefois l'envie de retrouver tout simplement le milieu ambiant qu'ils connaissaient avant cure et qui rechutent bien sûr. Donc à force de rechute, on finit par les schémas malheureusement qu'on connaît trop bien, la psychiatrie, la prison ou la mort, puisque beaucoup se suicident parce qu'ils n'y croient plus. Et le désespoir fait que c'est souvent des fins tragiques. Donc donner l'envie de se battre pour retrouver sa place dans la société, eh bien, le père aidant, je dirais, celui qui est en soins, a beaucoup d'attrait pour donner de l'espoir.
Jean-Paul, merci hein, pour toutes ces précisions. Vous faites de l'hébergement, hein, vous l'avez dit,
voilà.
De l'hébergement et de l'accompagnement. Vous pouvez accueillir combien de personnes ?
On a 85 places permanentes.
D'accord, oui, c'est pas mal.
Et pour les sortants de cure, ils passent d'abord par l'étape des... On a 35 places qui sont réservées pour les sortants de cure. Mmh. Ensuite, il y a des appartements relais. Et on a eu aussi une maison relais pour des gens qui sortent de la rue, qui ont beaucoup plus de difficultés, qui sont très abîmés, pour essayer de les réaccrocher, je dirais, à une dynamique de vie, pour soit se soigner, soit reprendre en main une vie sociale.
C'est le cas de... de toute façon, je me souviens pas de son prénom, mais... Moi, j'invite nos auditeurs à écouter ce podcast hein, de Contradiction, oui. Parce qu'il est vraiment incroyablement émouvant. Et c'est le cas de cette personne qui vivait dans la rue et qui aujourd'hui a un métier, enfin est devenue dans le milieu médical en plus.
Et a retrouvé sa place aussi auprès de ses enfants.
Très belle histoire, même si moi j'ai pleuré, hein, je peux vous dire, en écoutant ce podcast. Ouais. C'était très, très émouvant.
En tout cas, il y a toujours une porte de sortie, mais encore faut-il se faire connaître. Et on verra peut-être pour faire une émission spécifique avec nos pensionnaires,
volontiers.
Parce que ça donne l'envie à certains qui écoutent, ou en tout cas des familles à l'écoute, connaissent toujours dans leur environnement des victimes d'addiction à aider. Et le message doit passer.
Doit passer complètement.
La dynamique d'entraide, c'est ça.
Vous avez des chiffres à nous donner sur le taux de réussite
oui,
De votre méthode
Cette méthode inspirée du modèle Minnesota nous amène des résultats toujours très encourageant puisque c'est minimum 3 sur 4 qui se réinsèrent au bout d'un an. Et durablement, puisqu'on garde un lien et tous les ans on fait des réunions pour réunir les anciens et puis on retrouve dans les groupes de parole extérieurs à l'échelle nationale nos anciens qui deviennent des aidants ou des responsables associatifs ou des acteurs sociaux, puisque beaucoup passent soit comme patients experts ou se forment pour devenir éducateurs ou des thérapeutes, puisqu'on a des thérapeutes qui aujourd'hui fonctionnent dans les centres de thérapie comme AEDVO, puisque j'ai 3 thérapeutes qui ont entre 20 et 30 ans d'abstinence et qui ont des formations sur ce modèle.
Ils savent de quoi ils parlent.
Ils savent de quoi ils parlent. Et je vous promets que on peut pas leur faire à l'envers. Ils savent de quoi ils parlent. Et malheureusement, quand on est dans les produits, on est contraint de manipuler, d'exploiter un peu un milieu ambiant. Et là, ils peuvent plus manipuler. Mmh. Et ils sont obligés de se confronter à tous les dysfonctionnements qui ont été, disons, un parcours de leur vie malheureusement dramatique.
Oui, un temps donné, oui. Alors, vous êtes pareil, c'est un projet de vie, hein, Jean-Paul, ce que vous faites aujourd'hui. Vous étiez formateur anti-drogue dans la police nationale, c'est-à-dire que vous avez toujours baigné dans ce milieu. Qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper de ce sujet ?
Vous savez, j'ai commencé en 1970 dans la police nationale avec plutôt une fibre sociale et je me suis formé pour être responsable d'une brigade mineure au départ. Donc la protection des mineurs, et quand on parle de maltraitance, je connais et le racket scolaire, la violence scolaire. Donc j'ai été formateur dans plusieurs disciplines et très vite l'histoire des stupéfiants, ça fait une cinquantaine d'années où on voit un développement malheureusement précoce.
La question que j'allais vous poser aujourd'hui, c'est on parle de narcotrafic en plus.
Voilà, donc ça... Il y a un tel développement et c'est quand même récent. Toute ma carrière, en fait, a évolué en parallèle avec ce phénomène de société. Donc, je me suis impliqué parce que j'ai vu toutes les carences, que ce soit pour les mineurs, que ce soit pour les toxicomanes. Quand on les voit une fois ou 10 fois en récidive, on finit par s'impliquer en se disant il faut faire quelque chose parce que au départ, il n'y avait que Marmottan. Et Marmottan pour les cures seulement. Mais on les relâche dans la rue. Enfin, ils reprennent leur place dans la rue. Donc, ils ne peuvent pas s'en sortir s'il n'y a pas un aidant ou un milieu protégé ou en tout cas un cadre qui leur permet de s'accrocher à une nouvelle dynamique. Donc, EDVO a toujours été en parallèle de ma fonction et depuis 2003, je suis à la retraite, mais je n'ai pas vu la différence. Puisque ce qui me porte, c'est les résultats. C'est surtout de voir des gens qui reprennent une place dans la société et qui ne cessent de remercier ceux qui les ont aidés et deviennent des acteurs à mes côtés. Donc, difficile d'arrêter à 76 ans. Je voudrais bien passer le flambeau, mais c'est compliqué. J'ai une équipe, je ne suis pas tout seul. J'ai 10 salariés pour s'occuper à la fois de la prévention, jusqu'à l'hébergement et l'aide aussi alimentaire, puisqu'on aide des familles en difficulté avec 2 épiceries sociales. Donc j'ai mis en parallèle dès le départ, puisque quand on arrive dans les mains dans les poches sans aide ou sans secours, bien souvent il faut les nourrir et les héberger dans un lieu qui est plutôt favorable à la réinsertion. Donc tout ça se fait avec des salariés, avec des bénévoles et surtout l'implication des pensionnaires.
L'investissement personnel. Jean-Paul le retourne, mais vous reviendrez, hein, avec grand plaisir. On va prendre date, même si vous voulez tout à l'heure.
Oui.
Là, je voudrais que vous nous parliez de vos besoins aussi, les besoins qui sont alors, les vôtres.
Les besoins sont multiples.
Oui.
Mais on parlait de reconnaissance tout à l'heure. Cette méthode que nous utilisons est unique en France. Et le préfet nous a visités comme beaucoup d'autres préfets avant.
Oui.
Et voudrait bien nous aider, sauf qu'il y a un plan pluriannuel en matière d'addictologie, de prise en charge, qui court jusqu'en 2027. On espère que cette méthode qui existe en France soit développée. Donc on a quelques espoirs d'une reconnaissance pour le développement de DVO, parce qu'on n'a pas assez de place pour accueillir tout le monde.
J'imagine.
Plus de reconnaissance, plus de financement, pour former d'autres équipes, créer de nouveaux lieux d'accueil. Et puis, en ce qui concerne DVO, bien sûr, notre besoin, c'est financier, surtout ça.
Donc, vous vivez essentiellement de subventions.
Voilà, donc les Lions et les Rotary Club participent financièrement au financement des places d'hébergement, puisqu'on est, malgré cette prise en charge globale, on est à moins de 30 euros par jour et par personne, blanchis, nourris, logés. Mais il faut faire participer les résidents. Donc c'est minimum 30% de leurs ressources. Alors que dans beaucoup de domaines, la substitution, par exemple, tout est pris en charge. Donc, on voudrait bien qu'il y ait une participation de l'État sur notre prix de journée. Et ça, c'est un moyen de se développer et de créer de nouvelles structures, puisqu'on a les équipes pour ça.
Très bien. Donc,
voilà.
Et je voudrais que vous nous parliez de votre actualité. Là, la pièce de théâtre « Eros et Thanatos », pardon,
oui.
« Amour et mort hein, », c'est ça?
Oui, alors on a toujours développé l'art-thérapie dans le cadre du rétablissement. Et nos pensionnaires, enfin une dizaine de nos pensionnaires, tous les ans, préparent une pièce de théâtre pour mettre en scène tout ce qu'entraîne, disons, la dérive comportementale liée aux addictions, mais également la richesse de la vie, pourquoi on s'accroche à la vie. Et ce théâtre va être l'occasion de, par des mini, des scènes qui vont se répéter, illustrer un peu tous les travers dans lesquels on peut se retrouver, mais surtout la richesse de l'entraide et cette dynamique qui fait qu'on s'accroche à la vie. Donc ça va être lourd en émotion, mais je pense que c'est un bon moyen de faire comprendre en fait que tout le monde peut être victime un peu de ces mécanismes d'addiction et qu'on peut s'en sortir.
Alors je le précise, c'est une pièce qui sera donnée les 14 et 15 juin au théâtre de l'IA, 10 rue Vacry à Paris dans le 11e. Et c'est 12 résidents en rétablissement sous la direction de la metteuse en scène Sofia Petrovic.
C'est ça.
Donc, écoutez, moi, je vais essayer de venir hein, le 14 ou le 15. Je vais essayer de venir voir ce spectacle parce que ça m'interpelle. Voilà.
Merci.
Merci infiniment, Jean-Paul. Je crois qu'on peut vous écouter encore des heures, mais là, voilà, l'heure tourne encore et il faut qu'on arrive à la fin de cette émission. Et comme je vous l'ai dit au début, j'aime bien redonner la parole à mes invités pour un mot de conclusion. Donc, je vais commencer avec Ubaka, donc Yolis Guerra. Un mot de conclusion.
Bueno, pues encantada de conocer estas grandiosas asociaciones. Muchas felicidades. Unidos podemos ser fuertes contra todo el abuso de los niños en el mundo. Muchas gracias por el trabajo que hacen. Y pues en Ubaca, encantada de estar aquí en la sede de nuestra fundación y pues expandir también que somos la voz de los que no tienen voz y vamos a seguir en la lucha contra el abuso infantil.
Merci Yolis, j'ai pas tout compris mais Eric va nous traduire.
Oui, en fait elle remercie et elle félicite ces grandes associations développées par le par le Lions Club. Pour elle, ils font un travail formidable et elle les rejoint tout à fait. Et à nouveau, elle tient à leur présenter toutes ses félicitations. Elle a compris une partie du discours parce qu'il m'est difficile de pouvoir tout traduire et que j'étais aussi fasciné par ce qui était dit parce que comme l'a dit Arnaud précédemment, ce sont des valeurs que nous portons en commun. Et pour Ubaka, elle voulait conclure aussi sur le fait que elle continuera à lutter et à être la voix de ceux qui n'ont pas de voix.
Très bien, oui, c'est une belle formule. Merci beaucoup.
À titre personnel, je rajouterai juste un petit mot. Je connais bien le travail de Yolis. Depuis 11 ans, elle travaille sans fonds, sans aide financière. La plupart du temps, quand elle doit porter de l'eau dans des zones où l'eau n'est pas potable, c'est elle qui achète les bonbonnes ou les packs d'eau avec sa famille, avec les fonds qu'ils peuvent récolter sur quelques manifestations. C'est vraiment un travail incroyable. Et si certains de vos auditeurs ont retenu qu'il y avait une cagnotte en ligne... Et il n'y a pas de petits dons. Voilà. Même un euro plus un euro, ça peut faire des bonnes choses. Merci à tous. Merci pour ce débat de très, très grande qualité.
Merci à vous. Merci, Eric, de nous avoir traduit aussi bien, Yolis.
Merci.
La cagnotte, on va sur le site de Ubaka?
Oui, la cagnotte. La cagnotte, elle est sur le site de Ubaka Île-de-France. Vous allez pouvoir la retrouver assez facilement sur Internet. Je voudrais juste rajouter deux petits points qui me semblent un petit peu intéressants. Alors déjà, je vais le faire avec humour, mais tous les bikers du Baka en France pour intervenir au milieu scolaire ont un casier judiciaire vierge. C'est important pour intervenir. Autre sujet dont on est assez fier, on a aussi 40% de femmes chez Baka Île-de-France. Et ça, c'est très, très important. Ce que je pourrais vous rajouter aussi pour compléter, c'est que nous sommes aujourd'hui un organisme de formation. Nous avons des formations internes. Ça rejoint tout à fait le plan et les méthodes utilisées par l'Union's Club, puisque le but, ça va être de ne pas laisser quelqu'un intervenir sans formation. Donc, on a des formations internes et on est un organisme de formation. Je voudrais revenir sur le programme phare. On n'en a pas parlé. Mais le programme phare, donc, mis en place par l'État pour lutter contre le harcèlement, cyberharcèlement, nous, en complément. On n'est pas du tout concurrent de ce genre de choses. C'est des actions concurrentes c'est des actions complémentaires pour justement essayer de donner d'autres moyens aux enfants de libérer la parole et de pouvoir échanger. Voilà. On nous demande parfois, est-ce que ça fonctionne? Alors, Ubaka, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'effectivement, la posture qu'on utilise, cette posture de grand frère, libère la parole. On a des retours, parce qu'on suit les enfants lorsqu'ils sont en situation difficile. On les suit sur quelques temps. Quelques années. Mais on reste très proche d'eux et effectivement, on a de très très bons résultats. Voilà. Et puis petite fierté un petit peu, on est en cours de validation pour obtenir le dossier et la reconnaissance d'être un ONG.
Ah, voilà. Très
Donc,
bien.
Ça aussi ce sera une valeur importante.
Une valeur ajoutée.
Absolument.
Ben, félicitations pour tout ce que vous faites et j'ai vraiment été ravie de vous accueillir et de vous rencontrer et puis ben voilà, aussi le IDFM vous est ouvert, vous pouvez venir défendre votre projet quand vous voulez avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
À vous. Jean-Paul Bruno, un mot de conclusion aussi avant de nous quitter.
La continuité de l'action et des partenariats, très important, parce que seul on peut pas faire grand-chose. Et plus on sera nombreux sur le champ de la prévention ou de l'aide à ceux qui sont en difficulté, et le plus tôt possible, pour éviter les grandes dérives, et des familles en difficulté qui écoutent cette émission, faut pas hésiter.
Il y a toujours
une oreille attentive, des conseils utiles, et voire même de l'écoute entre parents, puisqu'on a créé un groupe écoute parents pour développer l'entraide au niveau des familles, parce que attendre que quelqu'un soit volontaire pour se soigner, c'est quelquefois très,
très compliqué
et douloureux pour notamment une mère qui voit son enfant à la dérive, ou des parents en tout cas, ou des familles entières qui subissent les addictions.
Oui. Donc, vous êtes basé à Montmagny, hein, c'est ça, Jean-Paul?
4 rue à Gallieni à Montmagny, et très facile d'accès puisque nous sommes à 10 minutes de la gare du Nord. Donc on travaille beaucoup avec des centres qui sont disposés sur plusieurs territoires français où la prise en charge est importante, gratuite. Celui qui veut se soigner, il a juste à faire l'effort de pousser une porte, venir nous voir, et on va l'aider, l'accompagner vers les soins.
Merci infiniment. Toutes les informations que vous donnez sur vos sur les sites, les cagnottes, tout ça, ça se retrouveront dans le podcast. Donc, si des auditrices auditeurs veulent vous faire appel à vous, ils auront tous les moyens.
Le site internet est important aussi pour se mieux connaître et aller voir même des témoignages sur dans Actualité sur le site edvo.fr.
Merci infiniment, Jean-Paul. Il faut que je vous précise que pour UBACA, toutes les interventions sont gratuites. C'était important que nos auditrices, auditeurs le sachent. Merci à Arnaud Lacroix. Patrick Bonnefond et Catherine Floquet, le mot de la fin est pour vous, un peu rapidement, parce que qu'on a déjà débordé.
Quel bonheur sur le d'avoir
temps.
Été avec vous.
Trois choses très rapidement. Tout d'abord, comme disait Arnaud Dubaca, Lyon Quest France PPLV est référencé dans le catalogue de l'Institut catholique de Paris, au niveau des enseignants sur plusieurs régions. Deuxièmement, ce que je voulais dire, vous l'avez très bien compris, que ces trois associations sont vraiment complémentaires et que notre force, c'est de pouvoir échanger sur nos formations, de faire bénéficier à chaque association de la particularité de l'expérience des autres associations. Et puis aussi, c'est une manière aussi de renforcer notre visibilité et notre communication.
Bien sûr.
Et je terminerai en disant quoi de plus beau que d'agir au profit de ceux, des personnes qui sont dans le besoin, et notamment au niveau de la jeunesse.
Merci infiniment, Patrick. Catherine, si vous voulez faire
Compléter qu'on est, comme on l'a bien dit tout de suite, on est dans une société très difficile et que la santé mentale, malheureusement, il n'y a pas que la jeunesse, il y a aussi les adultes dans le milieu du travail. Moi, je commence à m'y intéresser un petit peu parce que, justement, la cocaïne, pour pouvoir tenir ce rythme effréné qu'on leur demande, est quand même très, très présente et que je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Donc, moi, je suis ravie d'être avec vous. Je pense qu'il faut qu'on continue et peut-être qu'on fasse une action de visibilité, comme disait Patrick, ensemble, pour que les trois associations soient présentes dans nos départements, pour qu'on soit plus lisible. Et là, il y a des choses à faire, oui.
La santé mentale qui est le sujet mis à l'honneur par le gouvernement, la cause qui est mise à l'honneur par le gouvernement cette année.
Oui, et pour information, Jacqueline, sachez que la santé mentale sera la cause de l'année 2025-2026 de Lyon International. Et je voudrais simplement dire, quoi de plus beau que d'avoir des associations qui travaillent sur les mêmes valeurs.
Bien sûr. Écoutez, c'est en tout cas bon. Je voulais vous dire merci infiniment à chacun de nous avoir donné l'opportunité de mieux comprendre les enjeux et puis les perspectives de vos associations. Et puis merci à chacun dans votre domaine pour cette belle démonstration de savoir-faire collectif dans l'intérêt général. C'est la fin de l'économie en direct, donc vous pourrez vous retrouver comme bon vous semble son podcast disponible sur le site idfm98.fr. Merci Francky pour la technique, merci à vous tous pour votre fidélité et selon la formule consacrée, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Belle journée, bon week-end et à mardi pour un nouveau numéro de l'économie en direct.
Dans un instant, la suite des programmes, IDFM vous proposait une rediffusion.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
Dans les moments importants de votre vie, vous avez besoin d'un repère solide. Que ce soit pour défendre vos droits, protéger votre famille ou accompagner votre entreprise, un avocat du barreau du Val d'Oise est à vos côtés. Les avocats du Val d'Oise, ce sont des professionnels formés, indépendants et à l'écoute. Que vous soyez Argenteuil, Cergy, Sarcelles ou Pontoise, il y a toujours un avocat près de vous. Retrouvez les dates et les lieux de consultation gratuite destinés aux particuliers et aux entreprises sur le site du Barreau du Val d'Oise. Barreau du Val d'Oise, l'expertise juridique à votre service.
Et voilà, la future mariée.
Elle te va à merveille, on dirait une princesse.
J'ai tout de suite pensé à vous en la voyant.
Ouais, mais ça va pas le faire. Il va pas... Non, mais c'est trop voyant.
Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la robe de tes rêves.
Les violences conjugales, ça commence quand?
Si vous pensez être victime, ne restez pas seul. Contactez le 3919.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve tous les samedis et les dimanches entre 11h et midi sur les ondes de IDFM Radio.
Balade musicale avec Christophe Gravero sur IDFM Radio.